RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure du Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir.
Donc vous êtes avec nous comme chaque mardi. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous recevrons l'un des meilleurs économistes français, Patrick Artus. Mais pour commencer, nous saluons notre premier invité, Hervé Berville. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'un des nouveaux visages de cette génération Macron qui monte et qui s'impose. Vous êtes député La République En Marche des Côtes d'Armor en Bretagne. Vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale et vous êtes aussi économiste de formation. Et puis, vous avez une histoire pas banale. Vous êtes né au Rwanda il y a 27 ans, orphelin Tutsi. Vous avez été adopté à l'âge de 4 ans par une famille bretonne. Alors, je sais que vous n'aimez pas trop qu'on vous ramène sans arrêt à cette histoire, mais j'ai voulu en faire une parenthèse et Frédéric voudrait bien la rouvrir, en fait.
Mais tout simplement pour savoir, au fond, déjà, est-ce que c'est vrai que vous n'aimez pas qu'on s'arrête sur cette histoire qui est quand même singulière et qui fait partie de vous, partie prenante, intégrante de vous ?
Bah, c'est pas que j'aime pas forcément qu'on s'y arrête, mais je pense pas que ça devrait être l'élément essentiel de ma biographie. C'est un élément spécifique, mais qui n'est pas propre. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont eu une histoire un peu hors du commun, et c'est vrai que j'ai pas envie que ce soit le focus principal de l'attention médiatique et des journalistes. Après, autour d'un café ou de manière privée, j'ai aucun souci discuter.
Vous voyez, c'est une story successful, comme disent les Américains. C'était peut-être dans ce sens-là.
Mais ça ne fait pas de vous, aujourd'hui, un élu différent, cette histoire ?
Forcément, mon histoire est un peu différente de l'histoire de beaucoup d'autres députés, mais c'est pas ça qui fait de moi quelqu'un de différent, c'est plutôt ce que j'ai envie de faire. Et d'ailleurs, si on regarde l'histoire des 313 députés de La République En Marche, on pourra, pour chacun, trouver quelque chose de très particulier, de différent, et c'est ça, à mon avis, qui en fait la force de notre groupe.
Alors, je le disais, vous êtes donc économiste de formation, donc c'est une question qui est pour vous, puis c'est une bonne nouvelle qu'on a apprise ce matin, puisque les chiffres d'Eurostat sont tombés ce matin. La croissance de la zone euro est sur un rythme de 2,5%. Donc un bon chiffre, c'est un bon vent qui souffle sur la zone euro et donc sur aussi Emmanuel Macron.
Oui, c'est une excellente nouvelle et à mon avis, contrairement à ce qui a pu être fait auparavant, il faut profiter de ce bon vent pour, entre guillemets,
mettre les voiles encore
plus rapides. Et c'est pour ça qu'il faut profiter de ce momentum un peu favorable pour accélérer la transformation, accélérer les réformes. Parce que l'ambition, elle est quoi ? Elle est d'augmenter la croissance potentielle, de faire en sorte qu'on ait une croissance qui soit basée sur l'innovation de rupture, sur les nouvelles technologies. Et donc, du coup, il faut investir massivement dans la formation professionnelle, par exemple, d'où l'idée de ce plan de 15 milliards. Et surtout, il faut avoir des politiques au niveau européen qui soient beaucoup plus intégrées, pour faire en sorte que, en gros, la différence entre l'économie la plus puissante, la plus rapide européenne, l'économie allemande, et celles qui sont un peu plus à la traîne, comme parfois la nôtre, eh ben ça se réduit. Parce qu'on est une politique de convergence, donc il faut profiter de ce bon moment pour accélérer le rythme des réformes.
Puisqu'on parle de la zone euro et donc de l'Europe, une question sur les accords commerciaux. Je sais que vous avez fait partie d'un groupe de députés qui avait demandé à ce que soit bien surveillé, même mieux surveillé, la mise en application du CETA, le traité avec le Canada. Les eurodéputés, dans une résolution qui a été votée jeudi dernier, souhaitent que l'Union européenne, à l'avenir, puisse conclure, et par exemple là concrètement, un futur accord avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, un accord commercial, que cela puisse être fait sans avoir à les faire ratifier par les parlements nationaux. Est-ce que c'est une mesure qui vous paraît acceptable, ça ?
Je pense que c'est pas forcément la philosophie qu'on essaye de porter. Nous, il y a deux choses là. Il y a actuellement cet accord sur le CETA. Cet accord sur le CETA, en effet, on veut que le plan d'action, les recommandations que le gouvernement a fait, qui a été alimenté par le travail des députés, soient réellement mises en œuvre.
Voilà, mais si vous pouvez le faire, c'est parce qu'il faut que le Parlement national soit associé.
Mais c'est justement, à mon avis, on ne pourra pas revenir en arrière, à la fois dans la méthode et dans le fond de ce qu'on a fait sur cet accord-là. Alors, il va falloir avoir des négociations, parce que c'est pas simplement la France qui va décider pour toute l'Union européenne. Mais ce qu'on va essayer de porter, c'est une nouvelle philosophie, beaucoup plus de transparence, beaucoup plus, d'implication de tous les acteurs de la société civile avant la négociation et avant la conclusion de cet accord, et surtout après de faire en sorte que les députés et que la représentation nationale puissent s'en saisir et puissent être beaucoup plus impliqués. Donc moi je serai assez prudent sur ça, c'est pour ça que le président Emmanuel Macron a quand même mis un frein sur toutes les négociations, notamment Mercosur et autres qui arrivent, parce qu'il faut faire le temps de l'évaluation, il faut déjà bien mettre en œuvre les recommandations sur le CETA, et ensuite pour celles qui viennent après, il va falloir être beaucoup plus prudent et surtout changer le paradigme de négociation et de mise en application de ces accords-là.
Alors revenons sur la croissance, vous parlez de la croissance de la zone euro. Il y a les prévisions de croissance pour la France, 1,8. Et pour la petite histoire, Emmanuel Macron ne semble pas reconnaître beaucoup de mérite à son prédécesseur François Hollande sur l'impact de sa politique sur l'économie française, notamment le fameux CUCE et le pacte de responsabilité. Est-ce qu'il n'est pas un peu injuste, Emmanuel Macron, envers François Hollande?
Non, il est plutôt, lucide, parce que c'est.
Est-ce que la machine n'a pas en quelque sorte été amorcée par.
Il est lucide sur les facteurs qui font qu'on a une croissance à ce tel niveau. Il y a bien évidemment des mesures qui ont été portées par le gouvernement précédent, dont Emmanuel Macron a fait partie, et notamment le pacte de responsabilité, le CUSO, qui a été inspiré par Emmanuel Macron. Donc ça, il est lucide sur ce qui a été apporté par le précédent gouvernement. Mais il faut aussi regarder que c'est aussi le fruit d'une croissance mondiale qui repart, le fruit, on l'a vu tout à l'heure avec la zone euro, d'une zone euro qui repart. Donc il y a beaucoup de facteurs extérieurs qui font que la croissance française reparte. Donc sur ce sujet-là, il n'y a pas de polémique. On reconnaît ce qui est la part du précédent gouvernement. Après, il y a en économie, et Patrick Artus qui viendra après pourra aussi bien vous le dire que nous, il y a une grande part de confiance. Parce que des gens investissent, des gens créent, embauchent ou se lancent dans l'entrepreneuriat s'ils ont confiance dans le gouvernement. Et c'est le cas actuel. On l'a vu sur l'indice de confiance des TPE-PME qui n'a jamais été aussi haut depuis 2007. Donc il y a un vrai élément de confiance qui a été apporté par l'élection du président Emmanuel Macron.
Peut-être sur... Frédéric, si vous...
Non,
je voudrais en venir justement à l'étiquette qui lui a été apposée sur le front. C'est bien sûr celle de président des riches avec la transformation de l'ISF en ISI, donc l'impôt sur l'immobilier. Je rappelle que l'idée du gouvernement, c'est de libérer l'investissement pour ceux qui ont du capital, pour qu'ils réinvestissent dans l'économie réelle. Avez-vous le sentiment que c'est un pari, parce que c'est un pari, qui est bien compris par les Français aujourd'hui ?
Il est bien compris et provenait... Alors peut-être qu'on a un effort de pédagogie, je prends à ma part le premier. Mais il a été tellement bien compris que les Français ont voté en partie aussi sur cette mesure. Je ne dis pas que ça a été l'alpha et l'oméga de leur vote, mais ça n'a pas été caché. Premier tour, second tour, législative. Moi, dans les Côtes-d'Armor, j'ai fait aussi campagne en explicitant que la croissance, l'économie française actuelle et l'économie mondiale requéraient beaucoup, beaucoup de capital. Et que donc, du coup, il fallait le chercher là où il était. Ouais. C'est les gens les plus fortunés qui détiennent ce capital. Et donc, du coup, il fallait transformer la manière dont on avait de taxer ce capital en relâchant la partie immobilière et en se disant qu'en envoyant ce signal-là, ces personnes-là allaient l'investir. Alors, en effet, on n'a aucune garantie parce que...
Mais voilà, c'est ça le problème.
Mais on n'est pas dans une économie administrée.
Mais enfin, pourquoi vous auriez pu imposer des conditions en disant, voilà, vous êtes exonéré d'impôt sur le capital sous réserve que vous en investissiez au moins tant de pourcents dans l'économie réelle. Ça, c'était envisageable.
À mon avis,
vous vous souvenez du débat sur les contreparties au moment du pacte de responsabilité. L'idée de contrepartie, elle n'est pas indigne, si ?
Non, mais ce n'est pas une question d'indigne ou pas. C'est qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui fonctionne. À mon avis, je vous le dis tout simplement et assez honnêtement, ça aurait créé une usine à gaz, ça aurait été très très compliqué de vérifier. Et ensuite, nous, ce qu'on dit... C'est que justement, l'économie, c'est de la confiance. On fait confiance à ces hommes et ces femmes-là parce que on sait qu'elles ont, tout le monde ici autour de la table, envie que la croissance française reparte, envie que ce capital, plutôt d'être dormant, soit investi dans l'outil productif français, soit investi dans des nouvelles entreprises, soit investi dans les entreprises de demain. Et à côté de ça, l'État montre la voie et prend sa part avec notamment le fonds pour l'innovation de rupture de 10 milliards qui va permettre justement d'être un peu ces premiers de cordée sur la question question de l'innovation et du financement des entreprises de demain.
Alors l'ISF, c'est un des aspects qui est dénoncé par l'opposition comme injuste, l'opposition de gauche en particulier évidemment, mais il y a ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire cette taxe à 30% sur les revenus du capital, et en fait à 12,8% hors cotisation sociale, sachant que la première tranche d'impôt pour les salariés est à 14%. Est-ce que ça vous pose un problème ou pas de savoir que quelqu'un qui gagne 1 500, 2 000 euros par mois, qui est célibataire, va être imposé dans la première tranche à 14%, que quelqu'un qui a des millions d'euros de revenus le sera à 12,8%.
Ça a été un sujet qui a été mis sur la table, ça a été longuement évoqué, on s'est longuement explicité. Moi, sur la question du PFU, là aussi, c'est assez simple pour moi, et ça encore, ça a été dit pendant la campagne électorale, donc on n'a rien caché, c'est des engagements qu'on tient. C'était de faire en sorte que la fiscalité en France soit beaucoup plus lisible, beaucoup plus simple. Allez chez votre banquier demain, vous verrez la complexité de la chose. Et donc là, ce qu'on voulait, c'était donner de la stabilité, de la visibilité et de la lisibilité pour faire en sorte que les règles soient simples et que les gens puissent investir.
Mais au profit,
et
mettre son... au bénéfice des plus riches.
Non, c'est pas au bénéfice des plus riches, parce que vous n'êtes pas sans méconnaître que l'investissement qui est fait, c'est en grande partie pour alimenter des projets entrepreneuriaux, pour créer de la richesse, pour créer des emplois, et notamment pour financer ensuite la retraite en France qui est par répartition. Donc faut pas avoir une vision manichéenne en disant on a d'un côté ceux qui investissent et qu'on n'en a rien à faire des ouvriers. Je pense que ceux qui investissent, une grande partie qui le font, c'est pour créer de l'emploi, créer de la richesse et faire en sorte que en France on ait une économie forte et qui puisse se projeter dans la mondialisation actuelle qui est féroce, il faut s'en rappeler, donc il faut se donner les outils et les moyens pour pouvoir y nager, entre guillemets.
Alors, autre pan de la politique aujourd'hui, c'est c'en est fini de l'état d'urgence, il aura vécu presque 2 ans, et aujourd'hui c'est la nouvelle loi antiterroriste qui entre en vigueur. C'est à cette occasion qu'Emmanuel Macron s'est déplacé devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une première, un président devant les juges pour expliquer dans le fond qu'il n'y a pas, il n'est pas contre, il n'y a pas de problème avec l'état de droit. On l'écoute.
La loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme n'a aucunement pour objet de pérenniser l'état d'urgence, comme certains l'ont dit, mais elle prévoit des mesures nécessaires à la protection de nos compatriotes, strictement définies, encadrées et soumises à un contrôle renforcé des juges, qui nous permet d'être tout à la fois efficaces dans la lutte contre le terrorisme et de pouvoir mettre fin à la procédure d'exception que nous avions ouverte il y a maintenant 2 ans.
Voilà, cette nouvelle loi donc comporte des mesures qui s'inspirent de l'état d'urgence et qui portent en elle des risques d'abus pour les libertés. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque que l'on puisse en faire un jour un mauvais usage de cette loi? Et si on pousse le raisonnement un peu plus loin, imaginons qu'un jour il y ait un autre gouvernement dans quelques années, peu regardant sur les libertés qui arrivent au pouvoir et qui laisse cette loi à disposition, est-ce que c'est pas un risque aussi?
Non, mais votre question est légitime, et c'est pour ça que pendant les nombreuses heures de débat qu'on a eues en commission et en séance avec tous les spécialistes qu'on a auditionnés, on a vraiment voulu faire en sorte que cette loi garantissent les libertés fondamentales. Et ça a été exprimé aussi par le Conseil constitutionnel, qui ne voit dans cette loi aucune entrave aux libertés. Donc l'idée, c'était, comme l'a expliqué le Président, de faire une loi qui nous permette de lutter efficacement contre le terrorisme. Toutes les nouvelles formes, c'est multiple, c'est un peu protéiforme, mais en même temps, de garantir les libertés fondamentales. Et toutes les mesures que nous avons mises en œuvre dans cette loi-là seront contrôlé par notamment le juge des libertés et des détentions. Donc sur ce sujet-là, il n'y a pas de crainte à avoir, et preuve de notre engagement à faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir entre guillemets d'abus, c'est que cette loi va être évaluée, et d'ici 2 ans, on va voir quelles ont été les applications et s'il faut l'améliorer, l'amender pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun risque.
Le ministre de l'Intérieur, le président de la République disent qu'il fallait sortir de l'état d'urgence, mais que l'état d'urgence a été utile. Si la nouvelle loi ne reprend pas toutes les dispositions de l'état d'urgence, est-ce que ceux qui disent que la France sera désormais moins bien protégée n'ont pas automatiquement raison ?
Non, parce que vous aurez remarqué que d'un côté, il y a ceux qui nous disent qu'elle ne va pas assez loin, et de l'autre, ceux qui nous disent que ça va trop loin.
J'entends bien cet argument.
Non, mais c'est bien la preuve.
Utilisé, ouais, c'est la même chose pour la loi travail.
Oui, mais c'est bien la preuve qu'on est sur une bonne ligne de crête.
C'était pas ma question.
Alors, je vais répondre très concrètement à votre question. Nous, on a voulu prendre, de mettre dans le droit commun des mesures en les amendant, les modifiant, qui nous ont permis de lutter efficacement contre l'état d'urgence. Il y a des dispositions d'état d'urgence qui n'ont pas été utilisées, qui n'ont pas servi. Mais il y en a d'autres qui nous ont permis justement de déjouer 32 attentats. Donc nous, on a voulu être pragmatiques, prendre celles...
Vous pensez que tout ce qui était utile dans l'état d'urgence a été transposé dans cette loi ?
On a eu de nombreuses heures de discussion, oui. Alors après, le risque zéro n'existe pas. Et d'ailleurs, ce texte-là, c'est pas une garantie 100% qu'il y aura pas d'autres attentats.
Personne n'imagine ça, bien entendu.
Voilà. Et il y a d'autres dispositions à prendre, notamment le renforcement des moyens des renseignements avec 2000 postes créés dans le renseignement, avec à la DGSI 390 postes. Donc c'est tout un ensemble. Cette loi-là, c'est un moyen et pas une fin en soi.
Frédéric, Jean-Luc Mélenchon a un petit coup de déprime, une déprime automnale, on va dire.
Il est un peu déçu, il espérait que la mobilisation contre les réformes, notamment le code du travail, les ordonnances, aille un peu plus loin, soit un peu plus forte, et on va écouter en fait comment il exprime cette déception.
On est obligé de le constater. Monsieur Macron, d'ailleurs il s'en est vanté à son interview, il a dit « j'y suis arrivé en 5 mois ». Pour l'instant, c'est lui qui a le poing. Faut pas chercher à le cacher. Parce que si on raconte des histoires, on n'est pas crédible. Les gens se disent, mais ils parlent de choses qui n'existent pas. Donc voilà la situation. Bon, on peut espérer reprendre le poing. Et c'est clair que si la jeunesse se met en mouvement, ça y est, c'est parti. Mais c'est pas le cas.
Qu'est-ce que vous diriez? Que c'est un constat dépité mais lucide?
Alors, je ne sais pas si c'est dépité lucide, mais en tout cas, nous, on n'a pris personne par surprise. Et c'est ça que lui le surprend. C'est que tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre, c'était dans nos engagements. Et c'est pour ça que les Français, dans leur grande majorité, se disent on a envie de juger sur pièce, on n'a pas envie de donner des stratégies d'obstruction telles que M. Mélenchon et ses troupes le sont. Et donc, du coup, les gens considèrent qu'il faut laisser le pouvoir en place faire son travail.
Est-ce que ça veut dire aussi que les Français, dans le fond, donnent une chance aussi à Emmanuel Macron?
Oui.
Ils sont un peu dans une attente, alors bienveillante ou pas, d'attendre.
Je suis tout à fait d'accord.
Les débuts d'un résultat avant de couper la tête, quoi.
Mais oui, parce que ils sont un peu fatigués des postures, ils ont envie de résultats. Et c'est pas en essayant d'être dans une stratégie d'antagonisation permanente comme les Jean-Luc Mélenchon qu'on va régler les solutions. Il y a des sujets très concrets à aborder et il faut donner du temps à ce gouvernement pour les solutionner.
Alors, puisqu'on est au rayon de l'opposition, mais cette fois de l'autre côté, à droite, c'est Laurent Wauquiez. Ça ne vous a pas échappé, j'imagine, ce week-end dans le JDD, qui a pris la plume pour attaquer très violemment Emmanuel Macron. Il n'y va pas de main morte. Il évoque le désert de l'âme d'Emmanuel Macron, comparé à Bellamy ou Rastignac, figure littéraire de l'ambitieux. Bien sûr que chez Tout Politique, l'ego est surdilaté, mais lui est passé de l'autre côté du miroir et il rajoute qu'il est hanté par une haine de la province, Emmanuel Macron. Alors vous qui êtes élu de province, avez-vous le sentiment que Macron n'aime pas la province? On le dit très centralisateur. Donc
on reconnaîtra toute la subtilité des propos. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase qui dit que les tonneaux vides font plus de bruit que les tonneaux pleins. Et on voit là, il n'a rien à proposer, simplement des attaques ad hominem. Moi, je viens de la province, je suis élu en province, c'est absolument pas le cas.
Non, simplement... la critique d'un Macron trop centralisateur, est-ce qu'elle vous paraît...
Non, parce que justement, une de nos projets, c'est justement de faire de la déconcentration, de donner plus d'autonomie aux acteurs de terrain, de la société civile, des entreprises, des maires. Simplement, il est dans une campagne électorale interne, voilà, il veut être entendu.
Je juge pas sur le fond, hein.
Voilà, mais sur le fond, il n'y a rien du tout. Quelle proposition il a mis sur la table? Aucune. Il a été au pouvoir pendant quasiment 15 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc voilà, moi c'est.
Mais il y a cette accusation qu'on entend aussi de mépris de classe chez Emmanuel Macron. Par exemple, les propos en Guyane, je ne suis pas le Père Noël, vous n'êtes pas des enfants. Vous trouvez que c'est habile ça, que c'est heureux comme propos?
Mais c'est ce qu'il dit, c'est un parler vrai. C'est-à-dire que il faut arrêter d'aller
à l'autre bout. La vérité n'est pas bonne à dire.
Oui, mais il faut arrêter d'aller à l'autre bout du monde et de dire. Voici ce qu'on va vous promettre, et 15 ans après, il n'y a absolument rien du tout.
Je parle de la formulation, en fait.
Mais c'est pas du tout, je vois pas pourquoi ce serait méprisant pour ces personnes-là, parce qu'il dit simplement que je ne suis pas là pour distribuer des cadeaux, faire des promesses que je ne pourrais pas tenir. Et je vous considère comme des adultes, comme des gens responsables, et il faut tenir un langage de vérité.
C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve dans quelques minutes.
Merci.
Avec notre
Merci à vous.
Invité.
Merci.
Merci.
www.rfi.fr.
RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique avec notre deuxième invité, avec Frédéric Rivière, c'est Patrick Artus. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, directeur des études et de la recherche chez Natixis et auteur de La folie des banques centrales. Pourquoi la prochaine crise sera pire? C'est aux éditions Fayard. Alors le FMI vient de dire que l'économie était de plus en plus solide. La croissance de la zone euro est sur un rythme de 2,5%, on l'a appris ce matin. Donc 10 ans après la crise des subprimes, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un économiste optimiste?
Je crois qu'à court terme, il n'y a pas de doute. Hein. Tout va bien. La Chine continue à croître à plus de 6% par an. Les grands pays émergents ont des économies qui s'améliorent, parfois de façon assez spectaculaire, hein, comme la Russie, et même les autres ont des économies qui vont mieux. Le pétrole est un peu plus cher, mais reste relativement bon marché. On voit partout dans le monde, qu'on crée de nouveaux emplois. Hein, les services créent de nouveaux emplois avec les plateformes Internet, avec une demande de services très importante de la part des populations. Donc tout ceci s'accumulant, on finit effectivement par avoir une croissance partout.
Oui.
C'est pas la France, c'est l'Europe, les États-Unis un peu différents, parce que les États-Unis, eux, ont commencé beaucoup plus tôt que les autres. Hein, donc on a une dynamique aux États-Unis qui est un peu de fin d'expansion. Mais l'Asie, évidemment, en croissance très forte, l'Asie du Sud, les pays d'Europe centrale en croissance très forte. Donc c'est un phénomène mondial. Est-ce qu'on peut cependant faire des sauts d'enthousiasme? Alors il faut quand même regarder ce qui est toujours inquiétant et qui est une menace qui est toujours là.
Juste d'un mot, puisque vous avez dit à court terme, je crois.
Dans les 18 mois qui viennent.
C'est pour savoir pendant combien de temps on est tranquille.
D'ici la fin 2018, on a du mal à imaginer quelque chose de catastrophique. Peut-être on parlera de 2019. 2019 va être une année beaucoup plus compliquée. Alors qu'est-ce qu'on a comme menace?
Sujet d'inquiétude, oui.
La dette. Parce que cette reprise de l'économie mondiale s'est faite avec des taux d'intérêt qui sont extraordinairement bas partout. Et à nouveau, c'est pas seulement l'Europe, c'est l'Europe, les États-Unis, la Chine, les pays émergents où les banques centrales coupent les taux sans arrêt, et avec des taux d'endettement qui sont plus élevés que ceux de 2007, alors que 2008, c'était une crise de la dette déjà. Donc on a plus de dette que ce qui a déclenché une crise de la dette. Et donc, évidemment, une économie qui est plus fragile et qui réagirait mal à quoi que ce soit qui fasse remonter les taux d'intérêt en particulier.
Donc les dettes, les inégalités.
C'était mon troisième point, mais allons-y tout de suite. Partage des revenus. Mais vous avez raison, allons-y. D'accord. Le partage des revenus, alors c'est pas la France. Hein. La France et l'Italie sont un peu particulières. Mais dans beaucoup de pays, les États-Unis, l'Allemagne, l'Espagne, le Japon, etc., on a depuis maintenant 15 ans un partage des revenus qui est constamment au détriment des salariés et en faveur des profits. Alors, quand on part d'un niveau de profit bas, comme c'était le cas il y a 15 ans, ceci est plutôt favorable parce qu'on favorise les investissements. Quand on continue à donner des profits à des entreprises qui investissent beaucoup et qui ont déjà plus de profits que ce qui est nécessaire pour investir, ça devient très destructeur comme politique. L'exemple pire, c'est le Japon, où les profits, c'est le double des investissements des entreprises. Donc on prend des revenus aux salariés qui consomment pas et on les donne aux entreprises qui savent pas quoi en faire, qui accumulent des actifs financiers parce qu'elles ont pas besoin d'investir plus. Donc ça, le partage des revenus est une vraie menace.
Mais vous dites que la France n'est pas concerné par cette forme d'inégalité. Pourtant, régulièrement, des leaders de gauche disent que la part de l'actionnariat dans les entreprises a énormément augmenté.
Écoutez, que vous regardez quoi que ce soit, ce qu'il faut suivre, ce sont les salaires et la productivité. Quand les salaires augmentent plus vite que la productivité, c'est qu'on déforme le partage de revenus vers les salariés. Quand ils augmentent moins vite, c'est qu'on les déforme vers les profits. En France, depuis 20 ans, et en Italie encore plus qu'en France, depuis 20 ans, les salaires augmentent plus vite que la productivité. Donc on a déformé le partage des revenus vers les salariés. Alors évidemment, il y a plein d'autres problèmes. Comme la productivité a beaucoup ralenti, ça donne quand même pas de fortes hausses de salaire, je suis d'accord. Si vous regardez tous les indicateurs habituels des inégalités, la France est aussi une exception. C'est un des rares pays où on voit pas d'augmentation des inégalités.
Grâce à son système social.
Grâce à la redistribution. Parce qu'effectivement, les inégalités avant redistribution ont augmenté, mais les inégalités après redistribution sont les mêmes qu'il y a 20 ans. Hein. Mmh. Donc, mais à nouveau, quand vous regardez l'OCDE ou Le Monde, la France est très très bizarre hein, de ce point de vue, à la fois du point de vue du partage des revenus. Donc on a, mais au niveau mondial et au niveau de l'OCDE, disons, on a vraiment un problème de partage des revenus et ça ne sert à nouveau plus à rien d'augmenter sans fin les taux de profit quand ça ne sert plus à investir davantage. Et on est là dans beaucoup de pays. Et si je peux permettre, la troisième menace, c'est l'éducation et les niveaux de compétences des populations actives. Il y a beaucoup de pays où le chômage incompressible, hein, nous qu'on appelle du vilain mot de chômage structurel, c'est-à-dire le niveau du chômage qui est dû à des problèmes de formation, de requalification ou de fiscalité, est très élevé. Mmh. Probablement en Europe, le chômage structurel, c'est 8%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a de la croissance, on crée des emplois, le chômage baisse, mais ça veut dire qu'assez vite, on sera confronté à un chômage qui est d'une nature différente, hein, qui est plus un chômage que la bonne conjoncture fait disparaître, mais qui est un chômage qui nécessite de requalifier les personnes les moins qualifiées, de travailler donc sur les systèmes de formation professionnelle, sur la fiscalité, sur les besoins des entreprises en termes d'emploi. Regardez que la cause majeure citée par les entreprises européennes et françaises d'ailleurs de difficultés pour leur expansion, pour leur croissance, c'est les difficultés de recrutement. Hein, alors qu'on a 9% de chômage, c'est quand même très étonnant. Donc voilà, moi je crois qu'il y a quand même trois gros problèmes.
Hein. Oui.
Alors je parle plutôt de l'OCDE que des grands pays émergents qui peuvent eux ont des problématiques hein, qui sont la dette. Le partage des revenus avec ici une bizarrerie, une exception française et là il n'y a pas d'exception française du tout, au contraire, hein, la grande difficulté à faire redescendre le chômage en dessous d'un niveau
voilà,
très élevé.
Voilà, donc si on parlait de la France, donc elle a une prévision de croissance de 1,8, alors c'est positif pour le président Macron qui entame son marathon de réforme. Est-ce qu'il va, à votre avis, profiter de cette bonne croissance pendant tout son quinquennat?
Non, mais il peut y avoir deux étapes. C'est-à-dire qu'il y a l'étape 1 qui est maintenant. À nouveau, on l'a dit tout à l'heure, tout va bien. Donc quand on se dit qu'est-ce qui va mal, alors les choses structurelles dont on parlait, mais genre d'un point de vue strictement de court terme, il y a du géopolitique. Hein, on a oublié qu'il y avait la Corée. Il y a les problèmes européens que je trouve extrêmement graves. Comme économiste, hein, je parle pas de politique, là. La Catalogne, ce qui se passe en Italie du Nord, qui à mon avis est une énorme menace sur l'intégrité de l'Europe. Mais dans l'économie purement, il n'y a pas grand chose qui va mal. On va arriver assez vite, je le disais à l'instant, à une situation plus compliquée où pour faire baisser le chômage, il faudra faire autre chose que simplement avoir un environnement favorable. Vous en discutiez avec mon prédécesseur sur ce plateau. Beaucoup de ce qui nous arrive vient d'ailleurs. Donc vient d'une conjoncture mondiale meilleure, voilà.
Mais vous disiez d'ailleurs en août dernier, pour l'instant, il n'y a pas encore d'effet Macron.
Il ne peut pas y en avoir, mais.
C'est trop court. Mais c'est vous qui l'avez dit en août.
Non, mais le président.
Mais aujourd'hui, vous le diriez toujours.
Non, mais Emmanuel Macron l'a dit dans sa conférence de presse, il y a un mois, il a dit 18 mois à 2 ans pour voir les premiers effets. Ouais. Donc personne ne peut aujourd'hui.
Si ce n'est peut-être la confiance.
Oui, mais enfin, la confiance, c'est dans quelques enquêtes, oui, elles se sont retournées déjà, quand vous regardez.
Je disais que vous disiez qu'il y avait 20% d'effet Hollande, ce qui n'a pas l'air d'être regard que porte aujourd'hui la République en marche.
Je le disais tout à l'heure, il faut expliquer qu'une des choses qui fait qu'on a plus de croissance que ce qu'on attendait, je l'ai dit avant, c'est notre capacité extrêmement étonnante à créer beaucoup d'emplois. Et ce sont beaucoup d'emplois, alors dont on peut dire que ce sont pas de bons emplois, parce que ce sont des emplois dans des services un peu basiques.
On a vu que,
D'une part de l'intérim, et ça c'est pour des raisons un peu institutionnelles, 12% en un an, et d'autre part la sécurité, les loisirs, le tourisme, les services à la personne, le transport, ça s'appelle Uber, la logistique, ça s'appelle Amazon, etc. Donc on a créé beaucoup d'emplois. Beaucoup plus que ce qu'on pouvait attendre. Hein. On a vraiment un niveau de création d'emplois dans les services qui est très étonnant. Je pense qu'il y a une part de cela qui est le CICE. CICE, c'est une mesure très bizarre, parce que c'est une baisse du coût du travail qui n'est pas faite en baissant les cotisations sociales. Et donc, on s'arrache les cheveux pour savoir dans quelle mesure les entreprises ont considéré ou non que c'était une baisse du coût du travail. Mais enfin, il faut expliquer qu'il y a beaucoup d'emplois. Donc, je crois qu'on peut pas... Oui. Donc, dans nos calculs, on a plutôt vu qu'une partie de ce qui se passait sur l'emploi était attribuable au CICE. Bien sûr, ce qui va se passer maintenant...
La loi travail, est-ce qu'elle va créer des emplois?
Les ordonnances, non.
Non.
Parce que les ordonnances, honnêtement, enfin, je veux dire, c'est très gentil, mais en réalité, on n'a pas fait ce que beaucoup d'économistes demandaient, qui était de vider un peu plus la branche pour remplir un peu plus l'entreprise. Et puis les évolutions récentes, vous voyez, sur les primes, ce qui s'est passé dans le transport, qui va se passer probablement dans
la construction. Oui, il y a même des renégociations pour redonner de la force à la branche.
Voilà, donc les ordonnances, non. L'FM, enfin, sur la macroéconomie de l'emploi, les ordonnances, c'est totalement du troisième ordre.
Oui.
Donc, qu'est-ce qui est important? La réforme de la formation professionnelle, c'est central. On a un énorme problème de compétences de la population active. Il faut espérer que ça sera une vraie réforme, hein, où on va changer la gouvernance.
Ce serait quoi la réforme rêvée?
Il faut décentraliser, je pense. Il n'y a qu'un niveau assez local qu'on sait qui crée quels emplois dans quelle qualification. Donc ça peut pas se faire au niveau de la région ou des syndicats. Il faut vraiment une approche par bassin d'emploi, donc entre les entreprises, les branches professionnelles, les collectivités locales, un niveau assez fin. On sait que là, dans cette ville, dans six mois,
il y a des expériences d'ailleurs. Il y a des expériences zéro chômage dans certaines.
Alors ça, c'est différent. C'est l'expérience qui est pilotée en partie par Louis Gallois, qui est un peu différent, qui est de donner un CDI au SMIC à des chômeurs de longue durée.
Ouais. C'est intéressant ou pas ça?
Il faut savoir aussi ce qui se passe après, si vous voulez, parce qu'effectivement, il faut voir quelle est la dynamique dans le temps de ce genre d'emploi. Est-ce que les gens vont rester sur des CDI au SMIC extrêmement peu valorisés, quoi? Mais non, ce que j'avais à l'esprit, c'est plutôt quelque chose où on saurait que dans telle ville, dans six mois, telle entreprise va créer tant d'emplois de telle qualification, et on va adapter la formation, donc une gouvernance flexible de la formation. Ça, c'est absolument central, il faut le faire. Je pense que les problèmes de compétences de la population active sont sous-estimé, il y a une espèce d'omerta autour de ça, qu'on a en France un niveau de compétence de la population active qui est extrêmement bas et qui pose problème aux entreprises quand elles veulent acheter des machines compliquées, qui empêche d'être compétitif dans des produits sophistiqués, qui nous maintient en bas de gamme. Et donc il faut, ça c'est central comme réforme. La deuxième réforme qui va être centrale, c'est 2019, donc c'est la transformation du CICE en baisse de charges, mais surtout avec davantage de baisses de charges sur les plus bas salaires, hein, où là, il y a un consensus global pour dire c'est là que si on baisse le coût du travail, on crée des emplois. Et simplement, c'est 2019. Et d'où mon point qui consiste à dire on va avoir une conjoncture bonne en 2017-18. Et puis 2019, c'est le creux, parce que cette conjoncture bonne va s'étouffer, en particulier parce qu'on va arriver...
Donc c'est ça qui booste la croissance française, en fait, c'est les éléments extérieurs.
C'est beaucoup les éléments extérieurs, et c'est aussi, comme je l'ai dit, ce supplément d'emploi, donc probablement les réformes d'avant, aussi les nouvelles technologies, après aussi Uber et Amazon créent des emplois, c'est aussi parce qu'il y a ces nouvelles entreprises. Et puis 2019, on va perdre cette dynamique, et en particulier, on va vraiment arriver au niveau de chômage où les chômeurs ont beaucoup de mal à retrouver un emploi, à nouveau ce fameux chômage structurel. Et puis après, les réformes vont commencer à avoir des effets, 2020-2021. Donc on risque d'avoir un quinquennat en U, quoi. Je veux dire, ça part bien, le milieu n'est pas terrible et la fin est mieux, quoi. Ce qui va falloir simplement assumer. Mais à nouveau, personne, il me semble, dans la majorité, ne prétend que les réformes vont avoir des effets le mois prochain.
Vous disiez il y a quelques jours, c'était dans Le Monde, je crois, que si les subventions à l'économie sont si élevées en France, je vous cite, c'est pour atténuer les effets de régulation contre-productive. Est-ce que ça veut dire, si je vous ai bien compris, que dans votre esprit, une économie de marché pure, sans aucune régulation, serait un bon modèle?
Non, c'est pas ce que j'ai dit du tout.
Non, je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit. Je vous demande si c'est ce que vous avez dit.
Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Le SMIC.
Ouais.
On a un SMIC qui est extrêmement élevé par rapport à la pratique de l'ensemble des pays comparables.
Ça, c'est une réflexion d'économiste, parce que celui qui vit avec le SMIC ne l'entend pas comme ça.
Attendez, je termine mon point. J'ai pas du tout dit qu'il fallait baisser le revenu. Et donc, on a un SMIC qui fait 65% du salaire médian. Le salaire médian, c'est celui de la personne qui est au milieu de la distribution des revenus. La norme OCDE, c'est entre 40 et 50. Et donc, évidemment, comme on a fait ce choix, on est obligé après de mettre beaucoup d'argent public dans le subventionnement des emplois peu qualifiés. Puisque au niveau où nous avons le SMIC, ces emplois ne se créeraient pas, puisque le SMIC est trop haut. Et donc, on aurait pu avoir une autre approche, qui aurait considéré à dire le SMIC est plus bas, mais on va avoir un complément de revenus qui n'est pas à la charge des entreprises, et qui maintient l'employabilité des personnes peu qualifiées, tout en maintenant aussi leur niveau de revenu. Il n'est pas question de faire baisser le niveau de revenu des personnes en bas de l'échelle de revenus. On a fait le choix du SMIC, et donc du coup, on est obligé de mettre beaucoup d'argent public pour compenser une régulation. Hein. C'est un choix, mais c'est, alors on ouais, fait ça dans énormément de domaines. Hein. On met énormément de règles, par exemple, sur la construction de logements, donc on a des logements chers, et comme on a des logements chers par rapport aux autres pays, on est obligé de mettre énormément de subventionnements, etc. Et donc il y a plein d'exemples comme ça. Hein. Et donc on a une pratique de politique économique depuis longtemps, consiste à mettre de l'argent public pour compenser les effets néfastes d'une mauvaise régulation qu'on n'ose pas enlever.
Donc c'est pas la régulation que vous mettez en cause, mais c'est la mauvaise régulation.
Ah oui, c'est la mauvaise régulation. Mais à nouveau, il faut réfléchir. Ce qu'il faut pas créer, c'est des distorsions. Donc si vous avez quelqu'un qui est peu qualifié, si vous lui donnez un complément de revenu, on va appeler ça un bout de revenu universel, ça crée pas de distorsion, parce que ça le rend pas plus cher pour trouver un emploi. Et vous pouvez arriver au même résultat en termes de revenus en lui montant, en montant le salaire minimum, et là vous créez une distorsion, parce que vous détruisez des emplois peu qualifiés. Donc il faudrait avoir une vraie réflexion sur la façon d'arriver au même résultat, mais sans créer de distorsion.
Une question qui est au cœur, qui divise aussi les économistes, c'est l'avenir du travail. On a beaucoup entendu Benoît Hamon dire que le travail allait changer, que les robots allaient prendre des emplois. Est-ce que le travail va disparaître?
Alors il y a beaucoup de travaux académiques empiriques. Hein, et je pense en particulier en vous parlant au travail d'un groupe d'économistes allemands, comme l'Allemagne a beaucoup robotisé, qui sont allés regarder de façon extrêmement précise ce qui se passe quand on robotise. Et donc, ce qui se passe quand on robotise ou quand on met de l'intelligence artificielle, appelez ça comme vous voulez, c'est qu'on détruit des emplois là où on robotise. Hein, et évidemment, le robot va remplacer des emplois. Mais on crée d'autres emplois qui sont d'une part des emplois dus au fait que l'entreprise robotisée devient plus efficace, donc elle va gagner des parts de marché, et d'autre part des emplois de service. Et au total, on détruit pas d'emplois.
Donc ça, c'est la vision optimiste.
Et même plutôt, c'est pas vision optimiste, c'est vraiment ce qui sort des études. On a des données extrêmement précises. Donc ce qui sort des études, c'est un point extrêmement central. La question que vous posez est centrale si on veut réfléchir, par exemple, à la protection sociale, par exemple, à la réforme de l'UNEDIC, qui est complète. Est-ce que l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies fabriquent du chômage de masse? Ou est-ce qu'au contraire, elles vont changer la nature des emplois avec moins d'emplois répétitifs dans l'industrie ou dans les services répétitifs et plus d'emplois ailleurs? Les études ont l'air de montrer que c'est la solution 2 qui est la bonne. C'est-à-dire qu'on se dirige vers des sociétés...
Ont l'air, vous dites donc.
Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Mais alors, on peut prendre des... il y a des études micro... Prenez la Corée. La Corée a 2 fois plus de robots par salarié que l'Allemagne, qui en a 2 fois plus que la France. Hein. Donc la Corée est le pays hyper robotisé. Il n'y a pas de chômeurs en Corée. Hein. Et la Corée a une industrie qui est très grosse. Donc on n'a pas du tout, on voit pas dans la pratique que la robotisation détruit des emplois, fait maigrir. Et donc ça crée d'autres emplois. Donc il faut être capable de s'adapter à une situation où les emplois répétitifs disparaissent et sont remplacés par des emplois différents qui sont de nature non répétitive. Hein. Alors évidemment, ça pose de gros problèmes. Hein, c'est des problèmes différents. C'est des problèmes de requalification, de mutation de l'emploi, peut-être d'inégalité, parce qu'on va peut-être créer beaucoup d'emplois de services basiques qui sont mal payés, mais c'est pas un problème de chômage.
Qui nécessite une mutation de la société aussi, notre vision du travail.
Mais alors deuxième vue sur le travail, c'est la fin du salariat, qui est une question un peu différente. Hein, ça, c'est Internet, dont on dit, voilà, les grandes plateformes Internet n'embaucheront que des travailleurs indépendants. Alors ça, et c'est comme assez central, il me semble, dans la pensée d'Emmanuel Macron, hein, qu'on va vers la fin du salariat, donc il faut, par exemple, ouvrir les indemnités de chômage aux indépendants ou aux personnes qui démissionnent pour créer leur boîte. Il faut se rendre compte qu'il y a très très peu de pays où on voit le salariat diminuer. Il y en a essentiellement 2 qui sont la France et le Royaume-Uni. Aux États-Unis, en Suède, dans des pays extrêmement avancés, je dirais du point de vue des nouvelles technologies, la part des salariés dans l'emploi n'arrête pas d'augmenter. Aux États-Unis, 5% seulement des emplois sont des non-salariés, 95% des salariés. Donc c'est pas vrai du tout que les nouvelles technologies nous condamnent à la fin du salariat. C'est une idée qui est fausse.
Un petit mot, Patrick Artus, puisque vous élargissez volontiers le débat, vous avez parlé de la Russie, de l'Asie, de l'Europe avec la Catalogne. Un mot de l'Afrique. Certains théorisent que l'Afrique est la future grande zone de croissance. Est-ce que vous êtes de cela?
Bon, d'abord, on a du mal à parler d'Afrique, hein, parce qu'il y a autant de situations que de pays. Évidemment, je veux dire des banalités sur l'Afrique. Théoriquement, ce que vous dites est juste. Vous savez qu'il y a quelque chose que nous, économistes, on appelle le dividende démographique. C'est une situation où la population en âge de travailler augmente plus vite que la population totale. On a du dividende le dividende démographique est historiquement associé à une forte croissance. Pour une raison assez sordide, c'est qu'il n'y a pas à entretenir les vieux, quoi. Mais vous avez deux endroits dans le monde où il y a un dividende démographique positif, qui sont l'Afrique et l'Asie du Sud, hein, l'Inde, le Pakistan. Ouais. Et donc, normalement, on s'attend à ce que vous dites. Après, gouvernance.
Et je vous ai posé cette question un peu tard, il faut conclure. Oui. Donc,
Après, il y a deux Afriques. Il y a l'Afrique qui se modernise, l'Éthiopie, et il y a l'Afrique qui sombre, le Congo, par exemple. Hein, donc.
Voilà, et c'est la fin de cette émission. Désolé d'avoir abordé ce sujet aussi tard.
Non, mais c'était une question importante, il fallait qu'on vous la pose. Merci Patrick Artus d'avoir accepté notre invitation. Merci Frédéric.